VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 18h30 temps universel, le monde aujourd'hui édition du lundi 11 septembre 2017. Morgan Guiriac en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, la RCA en proie à de nouvelles violences, des groupes armés se sont affrontés ces derniers jours à Batangafo. Au Togo, la coalition de 14 partis d'opposition donne rendez-vous dès demain à ses militants pour de nouvelles protestations. Au Sénégal, l'ex-président Abdoulaye Wade renonce à siéger à l'Assemblée nationale. Retrouvez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Dili Dico pour la Minute Éco. Mais d'abord le journal. Le nord de la République centrafricaine en proie à de nouvelles violences. Des groupes armés se sont affrontés ces derniers jours à Batangafo, dans la préfecture de Louam. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées, de nombreux autres blessées et des bases des ONG pillées. À Bangui, les précisions de Freeman Sipila.
Selon des sources locales contactées par VOA Afrique, tout serait parti de l'assassinat vendredi dernier d'un employé de l'ONG Solidarité par des ex-Séléka. Situation aussitôt récupérée par des anti-Balaka, déclenchant ainsi les hostilités. L'interposition des casques bleus de la MINUSCA n'a pas pu calmer la situation, mais a plutôt boosté la tension. Conséquence, plus de 10 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tuées, de nombreux autres blessés, et la ville s'est vidée d'une partie de ses habitants. L'hôpital appuyé par Médecins Sans Frontières a été saccagé. Les bases des ONG, Conseil danois pour les réfugiés et Solidarité, systématiquement pillées. À Bangui, le chef de la MINUSCA s'insurge contre l'attaque sur des casques bleus et des humanitaires. Parfait, Onanga Anyanga.
C'est contre les principes humanitaires. On ne peut pas, même dans la guerre, on ne peut pas détruire, on ne peut pas pratiquer la politique de la terre brûlée. On ne peut pas, parce qu'il faut qu'il y ait toujours des hommes et des femmes qui restent, même dans la guerre. On détruise l'outil humanitaire qui a fait en sorte qu'aujourd'hui la Centrafrique est devenue le pays le plus dangereux pour les travailleurs humanitaires.
Pour le moment, les ONG internationales quittent Batangafo, ville devenue de plus en plus dangereuse pour les humanitaires. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Togo, la coalition de 14 partis d'opposition appelle ses militants et la population à de nouvelles protestations dès demain pour demander le départ du président fort Gassimbe et des réformes constitutionnelles. C'est le même collectif qui avait organisé les manifestations massives de la semaine dernière. On fait le point avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Les 14 formations politiques regroupées au sein des forces démocratiques étaient présentes à cette conférence de presse. Un signe pour montrer l'union de l'opposition que ces partis ont encore martelé à l'occasion. L'opposition togolaise veut toujours maintenir la pression. Elle vient d'annoncer à Lomé une série de manifestations qui débutent ce mardi. Georges Kouessin, président du parti Santé du Peuple.
Nous avons demandé aux populations de se présenter demain mardi, le 12, à 8h, à l'Assemblée nationale, pour réclamer le retour à la condition originelle de 1992.
Un meeting est prévu le vendredi 15 septembre et les 19 et 20 prochains, des marches avec les mêmes revendications, le retour à la constitution originelle de 1992 et le départ de Faure Gnassingbé. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Côte d'Ivoire, le PDCI salue la nomination d'Henriette Diabaté à la tête du parti présidentiel, le Rassemblement des Républicains. Le PDCI, souvenez-vous, est un allié du président Alassane Ouattara. Nous y consacrerons un magazine en seconde partie d'émission. Élection au Tchad. La France appelle le président Idriss Déby à annoncer prochainement un calendrier pour les législatives. Le scrutin avait été repoussé sine die en février par le président Déby, au pouvoir depuis 90 et réélu pour un cinquième mandat en avril 2016 à l'issue d'un vote contesté. Arguant d'un manque de moyens, le chef de l'État avait déclaré que les élections législatives n'auraient pas lieu avant 2019, suscitant la colère de l'opposition. Mais N'Djamena vient d'obtenir à Paris un large soutien des bailleurs internationaux. Nouvelle attaque meurtrière en Somalie. Au moins 16 personnes ont été tuées dans une attaque de combattants d'Al-Shabaab contre la ville de Beled Hawo. On fait le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'attaque a commencé à l'aube. Les combattants Chebab ont pris d'assaut à trois endroits différents. La ville de Beled Ao, située sur la frontière Kenya-Somalie. La première attaque a visé une base militaire à environ 6 km de Beled Ao. Le maire de la localité, Mohamed Osman, a rapporté à VOA que les assaillants ont utilisé une voiture piégée. Ils ont par la suite entamé une série de tirs nourris, obligeant les soldats de la base à traverser la frontière pour s'abriter au Kenya. Après avoir anéanti la base militaire, les Chebabs sont entrés dans la ville et ont attaqué le commissariat principal. Là, deux civils ont été tués, selon Mohamed Osman. La troisième attaque a ciblé la mairie de Beled Ao. Le maire Mohamed Osman rapporte que les explosifs ont détonné dans l'immeuble qui abrite le bureau du maire, causant des dommages. Les soldats kényans ont enchaîné des tirs et la surveillance aérienne avec des hélicoptères pour empêcher les combattants Chebab de franchir la frontière. Hier, un attentat suicide dans le centre de la Somalie, ayant fait au moins 4 morts et 13 blessés, a été revendiqué par les insurgés islamistes Chebab.
Au Sénégal, l'ex-président Abdoulaye Wade renonce à siéger à l'Assemblée nationale. Abdourahmane Dia nous en dit plus.
Je m'étais présenté à la compétition uniquement pour soutenir mon parti, le Parti démocratique sénégalais, et notre coalition, explique Abdoulaye Wade dans sa lettre de démission. Il avait pourtant activement pris part à une campagne émaillée d'incidents et multiplié les attaques contre son successeur Macky Sall. L'ancien président de 91 ans a renoncé à son poste de député et sera remplacé par son suppléant sur la liste qu'il dirigeait et qui a obtenu 19 sur les 165 députés du Parlement. Selon des analystes, M. Wade cherchait à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale pour l'opposition afin de faire voter une amnistie pour son fils et ancien ministre Karim, condamné en 2015 à 6 ans de prison pour enrichissement illicite, ce qui lui permettrait de se présenter à la présidentielle de 2019. Gracié en juin 2016 par le président Macky Sall, Karim Wade réside depuis lors à l'étranger et son éligibilité pour le scrutin de 2019 fait l'objet de débats au Sénégal. Un autre absent de marque de la rentrée parlementaire de jeudi sera le maire de la capitale, Khalifa Sall, en prison pour détournement de fonds présumés depuis plus de 6 mois.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Irma a été rétrogradée en tempête tropicale. L'œil de l'ouragan se trouvait à 8 heures locales à 170 km au nord de Tampa, en Floride, avec des vents soufflant jusqu'à 110 km/h. 3 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route. Une alerte aux inondations a également été émise ce matin dans le centre de la ville de Jacksonville, dans le nord-est de la Floride, située à quelques kilomètres de la frontière avec la Géorgie. Journée de commémoration ici aux États-Unis, puisque c'est le 16e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Le président américain a observé une minute de silence depuis la Maison Blanche, rendant hommage auprès des 3000 victimes. Donald Trump a assuré que l'Amérique n'oublierait pas et ne se laisserait jamais intimider. Et c'est dans ce contexte que les talibans revendiquent une attaque près de la base militaire américaine de Bagram en Afghanistan. Un kamikaze au volant d'une voiture piégée a foncé dans un convoi militaire étranger, blessant 2 soldats américains et 3 civils, selon des sources afghanes et américaines. L'ONU réagit à l'annonce par l'administration Trump de mettre fin au DACA, le programme empêchant l'expulsion des jeunes immigrés sans papier. Zeid Raad al-Hussein, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, espère que le Congrès américain va trouver une solution permettant de sécuriser le statut des Dreamers. Écoutons-le.
Je suis préoccupé par la décision du gouvernement américain de mettre fin au DACA, le programme de protection des jeunes immigrés sans papier, dans un délai de 6 mois, malgré son impact positif sur les vies de plus de 800 000 jeunes immigrés, ainsi que sur l'économie et la société américaine. J'espère que le Congrès va légiférer de manière à donner aux anciens bénéficiaires du DACA un statut légal durable.
Sachez également que le pape a demandé aujourd'hui à Donald Trump de permettre à des centaines de milliers de jeunes sans-papiers de rester aux États-Unis. François a notamment remis en question les qualités de défenseur de la famille avancées par le président américain. Arracher quelqu'un à sa famille n'apporte rien de bon, ni pour les jeunes, ni pour la famille, a-t-il estimé. Lutte contre le groupe État islamique en Syrie. Au moins 19 civils ont été tués dans des frappes aériennes près de Deir ez-Zor, où le régime de Bachar al-Assad mène une offensive contre les djihadistes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme estime qu'il s'agit de probables frappes russes. Il faut dire que cet État, riche en pétrole et frontalier de l'Irak, donc la province de Deir ez-Zor, est la dernière de Syrie, encore largement contrôlée par le groupe terroriste. Deux offensives distinctes, l'une soutenue par Moscou, l'autre par Washington, y sont menées. Et dans le même temps, en Irak, les autorités détiennent plus de 1300 femmes et enfants de djihadistes de 14 nationalités différentes qui se sont récemment rendus aux forces kurdes. C'est ce qu'a indiqué lundi un responsable à l'AFP. Et puisqu'on a quelques secondes, on retourne en Afrique puisque l'Église catholique est de nouveau éclaboussée par un scandale. Un religieux de 74 ans, appartenant à la congrégation des Frères du Sacré-Cœur, a été inculpé en France pour des viols et agressions sexuelles sur mineurs commis en Afrique. De 92 à 2002, le septuagénaire était directeur d'école à Conakry, en Guinée. Et c'est dans le cadre c'est dans ce cadre-là qu'il aura abusé de plusieurs adolescents qui l'entraînaient notamment dans l'équipe de football locale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique avec Dilip Diko.
Importante saisie de diamants en Tanzanie. Selon l'AFP, le gouvernement a choisi de nationaliser ces diamants d'une valeur estimée à 29,5 millions de dollars après avoir accusé la compagnie britannique Petra Diamonds, propriétaire à 75% de la mine, d'en avoir sous-évalué la valeur. Les autorités tanzaniennes ont indiqué que les documents de Williamson Diamonds déclaraient une cargaison de 14,7 millions de dollars, alors que la valeur réelle des diamants, dont le poids aurait été délibérément sous-évalué, était de 29,5 millions de dollars. La Guinée signe un accord de 20 milliards de dollars avec la Chine. Selon Reuters, il s'agit d'un accord cadre qui établit l'octroi de concessions minières guinéennes à des entreprises chinoises en échange de financement d'infrastructures. Les fonds seront décaissés par tranches successives entre 2017 et 2036. L'accord prévoit plusieurs projets parmi lesquels une raffinerie d'alumine et deux mines de bauxite situées près de Bofa, une ville à l'ouest de la Guinée. Au Cameroun, le taux de croissance du PIB chute à 1,1% au premier trimestre 2017, rapporte l'agence Ecofin. Selon l'Institut national de la statistique, les faibles résultats du début de l'année 2017 attestent d'un ralentissement de l'économie camerounaise.
L'info sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Et bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Veillée d'armes avant la phase de poule de la Ligue des Champions qui démarre demain en Europe.
Elle démarre dans le groupe A, toujours leader de la Première Ligue en Angleterre. Manchester United accueille le FC Bâle, champion de Suisse depuis 8 ans. Une réception dont devront se méfier les Red Devils qui pourront compter sur Romelu Lukaku, auteur d'un but ce week-end lors du match nul de partout à Stoke City. Autre match de ce groupe A, Benfica qui accueille le CSKA Moscou. Dans le groupe B, le Paris Saint-Germain, après son recrutement pharaonique en déplacement chez le Celtic Glasgow, Neymar sera la vedette pour permettre à son nouveau club de remporter enfin la Ligue des Champions. Autre match, Bayern Munich contre Anderlecht. Dans le groupe C, le petit poussé Karabakh d'Azerbaïdjan se déplace à Chelsea. Chelsea qui va faire tourner son effectif. C'est ce qu'assure aujourd'hui son entraîneur Antonio Conte. Le meneur de jeu vedette Eden Hazard devrait notamment être sur le banc. Et surtout au stade olympique, l'AS Rome qui accueille l'Atlético Madrid. Le vice-champion d'Italie se méfiera d'Antoine Griezmann. Dans le groupe D, le feu d'artifice de cette première journée. Au Camp Nou, le Barça accueille la Juventus Turin. Les Blaugrana et leur nouvelle recrue Dembélé auront à cœur de montrer qu'ils sont toujours des grands d'Europe. En face, la Juventus Turin, finaliste malheureux de l'édition 2017, voudra montrer qu'elle a de l'ambition. En fin dernière rencontre, l'Olympiakos du Pirée contre le Sporting Portugal.
Afrobasket 2017, pas de match ce lundi avant les quarts de finale.
Ils auront lieu jeudi à Tunis, Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Égypte et Tunisie-RDC.
Et puis, avantage Raphaël Nadal pour la première place mondiale en fin de saison.
En remportant l'US Open hier, Rafael Nadal a conforté sa première place mondiale. Roger Federer aura bien du mal à détrôner l'Espagnol d'ici la fin de la saison. À noter qu'au Masters de Londres en novembre prochain, il pourrait y avoir plusieurs néophytes.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgan Guiriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Il y a 16 ans, le département d'État américain, le département américain de la défense, le Pentagone, faisait l'objet d'un attentat terroriste. Le même jour, les agents d'Al-Qaïda attaquaient également et détruisaient les tours jumelles du World Trade Center à New York. Une troisième attaque a été déjouée in extremis lorsqu'un groupe de passagers à bord d'un Boeing détourné vers Washington s'en est pris aux terroristes. L'avion s'est écrasé dans un champ en Pennsylvanie. Le bilan de ces attaques est plus de 2900 morts. Aujourd'hui, l'Amérique se souvient. Gaby Dorsil.
C'est à la Maison-Blanche que Donald Trump a invité la nation pour la première fois en tant que président à observer un moment de silence en mémoire de cet événement tragique, les attaques du 11 septembre 2001 à New York et Washington. Il était 8h40 du matin lorsque le premier appareil détourné par les terroristes d'Al-Qaïda s'est écrasé contre le World Trade Center à New York. 23 minutes plus tard, un deuxième avion frappait le bâtiment, symbole du capitalisme américain. Les deux tours se sont effondrées peu après à la stupéfaction de millions de téléspectateurs à travers le monde. En parlant des victimes, le président Trump a déclaré « Nous les pleurons, nous les honorons et nous nous engageons à ne jamais les oublier. » Au Pentagone,
vous savez,
j'ai toujours l'impression que ce sol est sacré. J'étais ici le 11 septembre, se souvient le journaliste Jamie McIntyre. Le 11 septembre 2001, sur les lieux de cette attaque non loin de Washington, il expliquait aux téléspectateurs ce qui venait de se produire. C'était un moment de choc pour la nation tout entière. Et, dit McIntyre, pour quelqu'un qui a vécu cet événement tragique, c'est un moment décisif. James Leshak, le président du fonds spécial créé pour commémorer l'événement, le Pentagon Memorial Fund, a perdu son jeune frère le 11 septembre 2001.
There were, 184
Il y a eu 184 morts au Pentagone ce jour-là, 125 dans l'immeuble et 59 dans l'avion, rappelle l'échec.
The benches are also arranged according to the flight path of the plane.
L'organisation mise sur pied par James Leshak explique ce que comporte le monument érigé au Pentagone. Rien n'a été oublié. L'âge des victimes. Comment elles ont été tuées. Des bancs sont arrangés selon la direction de l'avion. On peut voir exactement le point de l'impact.
The designers wanted a place like no other because 9/11 was like a day like no other.
Comme l'a dit le président américain Donald Trump, ce jour-là, le monde a changé. Mais nous avons aussi tous changé. Ces attaques qui avaient traumatisé le pays ont poussé les États-Unis à lancer une vaste offensive militaire en Afghanistan pour déloger le régime taliban au pouvoir qui protégeait les commanditaires des attentats. Cette guerre se poursuit 16 ans après.
Et nous restons aux États-Unis. Le passage d'Irma, maintenant rétrogradé au rang de tempête tropicale et affaibli, a provoqué l'évacuation de 2 millions de personnes et a privé des millions d'autres d'électricité en Floride, mais semble avoir été moins destructeur que ce qui était craint initialement aux États-Unis. On fait le point avec Bagassi Koura.
Il y a eu plus de peur que de mal. Lundi matin, les résidents de la Floride se sont rendus compte avec un peu de soulagement des dégâts causés pendant la nuit par l'ouragan Irma. Écoutez Bob Lutz, un résident de Miami.
Vous savez, si cela avait été un ouragan de catégorie 4, tout le scénario ici aurait été différent. Nous n'aurions pas eu l'électricité. Nous avons juste rétabli l'électricité ce matin. Nous n'aurions pas eu le courant, peut-être des semaines. Nous n'aurions pas eu de prévision pendant au moins une semaine. Cela aurait été une scène complètement différente ici que ce que vous voyez maintenant s'il s'agissait d'un ouragan de catégorie 4 ou 5.
Bianca Machado, un autre résident de Miami, se félicite de n'avoir pas eu affaire à un ouragan plus puissant.
Ce n'était pas aussi mauvais que ce que nous pensions, parce que nous nous attendions à ce que l'œil du cyclone de catégorie 5 passe chez nous. Au moins, nous avons eu seulement la catégorie 3. Ce n'était pas si grave, mais c'est toujours mauvais.
Lors des cérémonies de commémoration du 11 septembre, le président Trump a une nouvelle fois promis tout le soutien du gouvernement fédéral aux régions affectées.
Before we begin, I'd like to
avant de commencer, je voudrais envoyer nos prières à tous ceux qui sont sur le passage de l'ouragan Irma et à toute personne affectée par les ravages. Nous sommes en train de mobiliser nos moyens pour aider nos concitoyens en Floride, dans l'Alabama, en Géorgie, au Texas et en Louisiane.
Plus de 24 heures après le passage d'Irma, les stations-service restent fermées ou inondées en Floride. Trouver un bidon d'essence est une tâche difficile, même si la solidarité entre les habitants évacués joue à plein. Le passage d'Irma a provoqué l'évacuation de millions de personnes et a privé des millions d'autres d'électricité en Floride, où 3 personnes ont été tuées.
En Côte d'Ivoire, Henriette Dagry-Diabaté est la nouvelle patronne du RDR, le Rassemblement des Républicains, le parti au pouvoir. Le président Ouattara est, lui, devenu président d'honneur. Pour comprendre l'enjeu de ce réaménagement à la tête du RDR, Ekiabadou a joint à Abidjan le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ivoirien, Bruno Koné.
Nous savons qu'il a pleine confiance en Madame Diabaté. Ça a été l'une de ses plus proches depuis le début de l'aventure du RDR. Il se connaissait bien avant même que le président ne soit premier ministre. Ils s'apprécient mutuellement. Et nous avons également le plaisir de connaître un peu Madame Diabaté, bon, qui est une femme remarquable. C'est une brillante intellectuelle, c'est une historienne accomplie, reconnue. Elle a milité comme il le fallait, elle a toujours été très brave, elle a fait la prison pour le président de la République. Et j'allais dire, tous les ingrédients sont réunis pour que le président lui fasse cette offre, parce qu'il a confiance en elle et qu'elle est capable, sans aucun doute, d'assurer pleinement cette fonction-là.
Alors, vous parlez de tous les éléments, les ingrédients réunis. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a également insisté sur l'alliance avec le PDCI d'Henri Conan Bédié en vue de l'élection présidentielle de 2020. Que pensez-vous de ce choix pour le parti et pour la Côte d'Ivoire?
Mais nous sommes nombreux à penser que cette alliance doit vivre. Premièrement, que cette alliance doit même se renforcer. Le PDCI et le RDR ont à peu près la même vision. Ce sont des partis libéraux. Ce sont des partis qui défendent la mémoire du président Fodboigny. C'est deux partis oufouettistes. Donc, le parti, donc le RDR est le plus proche aujourd'hui en Côte d'Ivoire et sans aucun doute le PDCI. Et chacun perçoit bien l'intérêt de cette alliance qui donne arithmétiquement la majorité au RHDP. Si cette alliance continue de se renforcer, sans aucun doute, le RHDP sera là encore longtemps et gouvernera comme il le fait aujourd'hui avec responsabilité dans l'intérêt des Ivoiriens et continuera à faire progresser notre pays en avant.
C'est très clair ce que vous nous expliquez. Ça balaie d'un revers de main les anciennes guerres entre les deux figures de ces partis.
Il n'y a jamais eu de guerre. Il peut y avoir des incompréhensions, surtout alimentées par l'entourage. On considère aujourd'hui que ces deux personnalités qui sont des hommes d'État ont compris que l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt des Ivoiriens, c'est qu'elles travaillent ensemble.
Comment expliquer l'absence de Guillaume Soro au Congrès?
Je n'ai pas de commentaire. 100% des militants du RDR n'étaient pas au Congrès.
Voilà, c'était Bruno Koné, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ivoirien.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Sénégal, la Société nationale d'électricité Sénélec a lancé une nouvelle filiale dénommée Aquilé et spécialisée dans la maîtrise énergique. Le projet Aquilé a d'abord été porté et développé par deux experts sénégalais, Amadou Ly et Samba Laoudé Ndiaye, formés au Sénégal jusqu'au bac et ayant évolué dans des sociétés de référence en France ainsi qu'au Sénégal. Et ces deux cadres supérieurs veulent aujourd'hui mettre leurs compétences et savoir-faire au service du développement social et économique de leur pays. L'Association des services informatiques et énergétiques a ainsi donné naissance à une société technologique de services énergétiques, Seydina Abagay.
Grâce à une solution informatique, Aquilé SA va aider les ménages et les entreprises à comprendre, maîtriser et réduire le montant de leurs factures d'électricité. Ceci dans le but de leur faire gagner en pouvoir d'achat et en compétitivité, comme l'indique Amadou Ly, directeur général de Aquilé.
Aquilé a vocation à aider à maîtriser les consommations d'énergie avec la finalité d'arriver à réduire sa facture d'électricité si possible. À minima, si on ne peut pas, au moins qu'on puisse éviter qu'elle n'augmente sans qu'on ne comprenne pourquoi elle augmente. Donc voilà un peu, vraiment il n'y a pas de limite, c'est tout le monde. On a dit tout à l'heure que c'est pour les gens qui avaient Internet, ça c'est la première version, mais nous sommes en train de travailler sur des versions où même ceux qui n'ont pas Internet chez eux, ils pourront également l'avoir.
Aquilé offre également de nombreuses perspectives à la Société nationale d'électricité, comme l'explique Mohamedou Makhtar Cissé, directeur général de Sénélec.
On ne peut pas en permanence naturellement être dans une logique d'une baisse du prix de l'électricité. Il faudrait également envisager d'actionner un autre levier qui est celui de l'efficacité énergétique pour aider les Sénégalais dans leurs habitudes de consommation à maîtriser leur consommation, à réduire ses consommations et donc à diminuer la facture de l'électricité par eux-mêmes, par leur comportement.
Aquilé permettra à ses clients de suivre leur consommation de manière détaillée à tout instant depuis n'importe quel endroit du monde où ils auront accès à Internet. Un joyau technologique à la portée de toutes les bourses.
Le coût est variable parce que, en vérité, ça dépend de combien on peut vous faire gagner. Celui qui paye 100 000 francs, ou celui qui paye 1 million, ou comme on l'a vu tout à l'heure, celui qui paye 50 millions de factures d'électricité, on lui installe le même système. Il est entendu qu'on ne peut pas facturer le même prix à tous ces gens-là. Donc, aujourd'hui, le modèle, on peut dire que c'est à partir de 2 000 francs par mois. Mais 2 000 francs par mois jusqu'à une certaine limite, dépendant de combien vous payez. On ne va pas exposer ici le détail de notre modèle économique. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un, par exemple, qui a une facture de 50 000 francs par mois, pour 2 000 francs par mois, il peut avoir accès à Aquilé sans aucun problème.
En devenant filiale de la Société nationale d'électricité du Sénégal, Aquilé permet à cette dernière d'entrer dans une nouvelle ère. Un apport apprécié à sa juste valeur par le directeur général de Sénélec.
Donc c'est un outil éminemment révolutionnaire qui participe à la diversification de nos activités pour accroître la valeur ajoutée de ce que nous faisons. Parce que nous ne pouvons pas être que dans l'urgence de la production et de la destruction de l'énergie. Si une société veut se développer, si une société veut avancer, si une société veut faire des pas de géant, forcément une industrie comme Sénélec doit s'inscrire dans un schéma d'innovation.
En phase pilote depuis plusieurs mois, Aquilé est désormais disponible pour le grand public. Initialement lancée au Sénégal, cette nouvelle société technologique spécialisée dans la maîtrise énergétique espère bientôt se tourner vers le marché international. Seydina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Georges Léonard Sagno, Mr. Zorniak, à la console, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.